Un grand merci à Julie Delalande, dont je dois dire que les travaux m'ont beaucoup inspirée quand j'ai commencé en fait à travailler bien auprès d'enfants dans ce monde donc de l'enfance. Parce que voilà, ce n'est pas la même chose finalement de mener des recherches auprès d'enfants qu'auprès d'adultes. Voilà. Donc c'est cette question un petit peu qui va m'animer aujourd'hui et à savoir donc comment on recueille la parole d'enfants et en plus la parole d'enfants qui ont vécu comme on vient de l'évoquer des trajectoires pas toujours faciles voire très difficiles et qui sont placées par les politiques publiques dans un positionnement pas simple dans la société française, dans la société d'accueil, la société française en l'occurrence, c'est le territoire donc sur lequel donc on va inscrire l'exposé de ces résultats, mais qui sont aussi des questionnements voilà que je voudrais aussi partager avec vous. Et pour en débattre. Alors, on est enseignant-chercheur la plupart du temps, donc ça veut dire que je suis aussi enseignante. Et je suis responsable pédagogique, en fait, d'un master, d'un parcours de master en intervention sociale qui prépare en même temps au DEIS, au diplôme d'état d'intervention sociale. Donc, si vous voulez, je passe la moitié de ma semaine avec... des travailleurs sociaux qui ont décidé de reprendre leurs études, de faire un master et qui, du coup, s'engagent dans une formation par la recherche. Et évidemment, donc, le quotidien des travailleurs sociaux est mis au travail, leurs interactions professionnelles, leur place dans l'institution, leur rapport à ceux que la loi appelle les usagers ou les... Voilà ceux auxquels s'adresse l'accompagnement ou la prise en charge. Et dans ce cadre, j'accompagne des mémoires, et notamment des mémoires de chefs de service, par exemple, qui travaillent en CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ou qui interviennent en fait dans cette grande politique d'accueil, que je mets entre guillemets accueil, vu tout ce qu'on a dit auparavant, des migrants en général, et notamment... aussi des demandeurs d'asile. Et ce qui ressort beaucoup au départ de ces mémoires, c'est la grande souffrance au travail de ces professionnels, soit parce qu'ils la vivent eux-mêmes, parce qu'ils sont mis en face en fait, d'enjeux et de défis d'accueil dans un contexte de durcissement des droits de séjour au sens large. Donc, il se trouve, on a parlé des familles qui pratiquent l'hospitalité, mais les travailleurs sociaux, les chefs de service des centres d'accueil, qui sont en première ligne, se retrouvent aussi parfois en difficulté, malgré leur formation. Hein, et voilà. Et donc, les mémoires, la recherche peut servir aussi à faire un pas de côté et à essayer de mieux comprendre les enjeux. Le cadre de politique publique dans lequel s'inscrit leur travail, et peut-être aussi de se repositionner, soit en tant que chef d'équipe, soit par rapport aux personnes accueillies, tout en tenant compte de cette souffrance au travail, hein, donc qui n'est pas uniquement liée à la psychologie des personnes, mais qui s'explique aussi par des conditions de travail et par des conditions créées par les politiques publiques. Donc voilà, c'était aussi la casquette sur laquelle je voulais insister, en plus de ma casquette de chercheuse, qui donc travaille depuis quelques années, qui a mené co-dirigé une recherche donc, sur l'accès et les conditions de scolarisation de deux types d'enfants catégorisés donc, par les politiques publiques scolaires, hein, puisqu'il s'agit de catégories de type administrative, les EANA, élèves allophones nouvellement arrivés, allophones donc Ça a été décidé par, au niveau des politiques publiques pour ne pas insister sur la non-francophonie, donc qui était un privatif, mais plutôt sur porteurs d'autres langues, donc allophones, nouvellement arrivés, et des familles issues de et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, je vais moins parler de ce que donc, les politiques publiques nomment EFIV, bien que j'ai beaucoup travaillé auprès d'eux. Voilà, parce que ce n'était pas forcément central dans la journée quand on a préparé avec Julie. Mais malgré tout, j'aurais pu et je pourrais l'évoquer parce que les EFIV, les familles, donc ces familles, continuent de faire figure d'étrangers ou d'étrangères, pour reprendre le titre d'un ouvrage que j'ai co-dirigé, c'était donc en 2004, mais que je continue donc à mobiliser parce que je pense que c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Hein. Il y a la question des statuts qui déterminent les conditions d'installation, enfin même le droit à circuler, les conditions d'installation, que ce soit donc pour les migrants au niveau international ou anciennement pour ce qu'on appelait les gens du voyage, donc était un statut, comme quelqu'un l'a mentionné. Mais il y a aussi les perceptions, il y a aussi les catégorisations sociales qui font que parfois, même si on est français, comme c'est le cas de ceux qu'on appelle les gens du voyage, on peut être perçu comme étranger. Et ça peut avoir une incidence sur les pratiques administratives et sur les pratiques au quotidien. Et bien sûr, ça a une influence sur la manière dont les enfants se vivent, interagissent avec leur père à l'école et avec les acteurs, les adultes en charge d'eux, les acteurs institutionnels. Et ça vient aussi, bien sûr, en tant que sociologue, on le sait, ça vient aussi construire l'identité personnelle et collective à travers la socialisation donc, des enfants. Voilà, donc ce programme de recherche EVASCOL donc était commandité par le défenseur des droits. Donc le défenseur des droits qui est une haute autorité, hein, donc indépendante, et qui, voilà, pour une part de ses missions, eh bien peut répondre donc à des demandes donc de personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination, pour prendre ce registre-là. Mais d'autre part, qu'il y a une mission d'étude et de recherche. Quand, par exemple, elle a vu remonter des cas portés par les associations de discrimination dans l'accès à la scolarisation d'enfants migrants, notamment vivant en bidonville, et d'enfants du voyage, eh bien, donc le défenseur des droits, donc dans sa mission études et recherches, a décidé de proposer un appel d'offres donc pour que des chercheurs, une équipe de chercheurs, travaillent sur l'accès à la scolarisation et les conditions de scolarisation de ces publics. Voilà. Donc, la question du commanditaire en recherche, elle est toujours importante. Voilà, ça vient aussi donner un cadre, même si on a été complètement indépendant en tant que chercheur. Et donc, on remercie la mission étude du défenseur des droits. Malgré tout, donc, bien sûr, ça s'inscrit donc dans un contexte, notamment donc dans la référence à la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Il en a été question, donc d'une part, défenseur, défenseuse des enfants, mais aussi dans la question de la prévention et de la lutte contre les discriminations. Donc, forcément, notre recherche, elle s'est située un petit peu à l'interface de ces deux contextes de politique publique et de préoccupations nationales et internationales. Donc, voilà, les éléments donc, que je voudrais partager avec vous sont ressortis donc, de plusieurs études de terrain, donc, avec des présences à chaque fois longues dans les terrains de recherche, notamment donc, dans les écoles, mais pas seulement, dans le nord et l'est francilien, et je vais respecter un anonymat strict des lieux et des écoles. Alors, soit des observations donc, que j'ai directement menées, en collaboration avec des artistes avec lesquels on a construit, inventé une méthodologie de recherche. Je vous expliquerai un petit peu comment et pourquoi. Soit par des étudiants donc, que j'ai accompagnés dans le cadre du parcours intervention sociale, donc, où je donne cours donc, à l'université Paris-Est-Créteil. Des étudiants donc, qu'on a formés aussi à cette méthode participative. Pour spécifier mes terrains d'enquête, je pourrais faire référence à la notion de terrain sensible qui est développée donc, dans des travaux d'anthropologie notamment. Pourquoi sensible ? Bien parce que j'ai surtout travaillé donc, soit donc, auprès d'élèves dont une grande partie avait grandi en bidonville ou vivait encore en bidonville ou était hébergée en hôtel social. J'ai mené aussi des observations, moi ou les étudiants ou les deux, dans divers camions-écoles, donc antennes scolaires mobiles. Pareil, sur soit des lieux de vie de gens du voyage très, très précarisés, soit donc en bidonville habité par des migrants, dont qu'on dit Roms, mais je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est plus compliqué que ça. C'est aussi ça fait partie de ces catégorisations sociales. Et puis sur des aires d'accueil donc prévues par la loi Besson, la loi de 2000, qui prévoit donc l'installation et l'aménagement d'aires d'accueil pour les villes de plus de 5 000 habitants. Donc on a aussi travaillé auprès d'adolescents quasi déscolarisés, c'est-à-dire qui suivent une scolarité par le CNED, mais voilà, dont on a pu observer qu'elle n'était pas toujours très suivie, pas très efficiente. Bon, l'Île-de-France, voilà, c'est certains départements, c'est pas les réalités que vous rencontrez ici. Tout est tendu, le logement, le travail social, les places d'hébergement, la question de l'accueil et du traitement des mineurs étrangers isolés, hein, la question de l'obtention, donc de la reconnaissance de la minorité, un sujet vraiment en tension à Paris et en Île-de-France. Et on a beaucoup de jeunes en errance qui sont qui sont mineurs et qui, parce que les délais administratifs sont longs, parce que les démarches sont compliquées et parce que ce durcissement en fait du droit de présence se fait sentir partout. D'autre part, c'est tendu au niveau des écoles aussi. Il y a beaucoup d'écoles saturées. Donc, les dispositifs auxquels on s'est intéressé, donc les dispositifs spécifiques de scolarisation des enfants migrants allophones, qu'on appelle donc les dispositifs UPE2A, qui permettent en fait, en théorie en tout cas selon la loi, une inclusion progressive dans sa classe correspondant à sa classe d'âge, en passant donc par le dispositif UPE2A qui renforce l'apprentissage et la connaissance du français pour pouvoir être plus à l'aise dans l'ensemble des autres disciplines, c'est tendu aussi parce que voilà, les écoles sont déjà surchargées et saturées. Donc, voilà. Du coup, dans ce contexte-là, de problèmes d'accès au logement, on a une grande précarité d'un certain nombre de migrants. On a vu ressurgir ce type de logement spontané, d'habitat spontané, qui est le bidonville, qu'on appelle au niveau des politiques publiques campement illicite, et qui est malgré tout un lieu de vie, et un lieu de vie vécu comme tel par les enfants, j'en parlerai. Donc des formes d'extrême précarisation, des formes parfois de protection, parfois on appelle ça du repli, lié à de la stigmatisation et à des discriminations qui font que l'accès à l'école est difficile pour toutes ces raisons. Voilà, et qu'on a un faisceau qui crée des rapports sociaux, donc qui font que certaines familles semblent en tout cas ne pas adhérer à la norme de la fréquentation scolaire. Alors parfois c'est parce qu'on est dans une extrême urgence quotidienne et que ça ne peut pas être en fait la priorité, voilà, ou parfois parce que justement il y a des relations difficiles avec les institutions. Il y a donc un vécu qui est transmis parfois aux enfants dans cette difficulté-là, dans le rapport donc tendu aux institutions. Et du coup, dans ce cadre-là, je me suis intéressée notamment à deux associations de médiation scolaire. Vous voyez que la médiation scolaire, en fait, paraît essentielle pour opérer cet accès à l'école, dans la mesure où il y a un ensemble de discriminations, où il y a des difficultés au quotidien qui rendent difficile l'accès à la scolarisation. Donc, pour moi, les médiateurs scolaires, ce sont des acteurs à part entière de ce paysage, donc d'accès à la scolarisation. Hein. Ils sont à considérer comme acteurs essentiels qui font l'interface dans un travail qu'on pourrait dire aussi d'interculturalité entre des familles migrantes très précaires et les institutions scolaires, voire même socio-éducatives au sens plus large, hein, puisque je m'inscris un petit peu aussi à l'interface entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces associations ne se positionnent pas de la même manière par rapport à l'évolution des politiques publiques et par rapport aux institutions. J'avais pris exprès donc une association très, très investie, très, très militante. Voilà, et ça pose aussi à l'observation la question des limites, en fait, des institutions. Et puis, une autre association de médiation plus proche des institutions. Vous voyez, quand on est dans la médiation, on a d'un côté des familles, de l'autre des institutions. Et donc, voilà, on peut se positionner comme ça ou comme ça. Voilà. Ce qui tient à l'histoire de l'association, ce qui tient aux personnes qui dirigent l'association, à la mouvance de travail social ou de pédagogie sociale dans laquelle l'association s'est construite. Quant à la méthodologie, donc, Julie a annoncé donc une méthodologie artistique de recherche. On s'est réunis donc, et on s'est dit, voilà... Donc, on a vraiment envie d'approcher les enfants, les élèves, pour comprendre leur quotidien, un petit peu donc comme le travail que je perçois au niveau du laboratoire de recherche ici, c'est-à-dire les perceptions en fait des enfants qui semblent vivre une réalité qui nous paraît, tellement éloignée pour la plupart, j'imagine, d'entre nous. Dans cette urgence sociale, comment ils vivent ce quotidien, les interactions de leur point de vue avec les adultes en charge d'eux, avec les autres élèves dans l'école, et puis leur rapport aussi à ces institutions de socialisation. Mais comment faire, puisque nous aussi, on est des acteurs institutionnels, on est des chercheurs, des chercheuses, on est des adultes. On n'est pas forcément toute l'équipe, mais une partie d'entre nous, un petit peu des figures de la société française, en tout cas au regard de ces populations en situation de minorité ou en situation minoritaire. Donc on se situe aussi dans des rapports sociaux, vous voyez, qui sont pas symétriques, qui sont pas égalitaires. Non pas que nous-mêmes nous soyons dans cette posture-là, mais on est pris dans des places qui nous positionnent dans la société. Et malgré ces places, cette place asymétrique, donc comment entrer en confiance avec les enfants et pouvoir... justement, l'idée, ce n'était pas forcément directement de les interroger sur comment vous vivez l'école, comment... Vous voyez, c'était au contraire de les approcher par leur quotidien et de voir ce qui émerge dans cette parole spontanément, ou quelque chose qui ressemble en tout cas à de la spontanéité. Donc, favoriser un espace de prise de parole, un espace où cette expression puisse être la plus spontanée, la plus libre possible. Et sachant que la question que ça pose pour un certain nombre d'entre eux, vous en avez parlé, c'est qu'un certain nombre d'adultes avant les ont questionnés. Il y a eu des situations d'entretien, il y a eu... Et nous, on arrive après ça, donc en ne souhaitant pas être dans ce type d'interaction-là, parce que ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Voilà, donc on a mis en place, du coup, une approche artistique comme un biais, notamment par le théâtre, par la pratique par les ateliers clowns et par les ateliers dessin. Et on a vraiment construit avec deux chercheuses, notamment conçu et construit ces ateliers autour du recueil de la parole sur le quotidien dans l'école ou le quotidien sur l'aire d'accueil, les souvenirs pour les jeunes déscolarisés, les souvenirs d'école, mais le plus quotidien possible, la classe, la cour, le rapport avec les enseignants et avec les autres adultes, mais aussi le trajet quotidien pour venir à l'école. Et croyez-moi, il n'est pas toujours simple. C'est là qu'on voit aussi l'autonomie assez incroyable de par la situation que certains enfants... donc de primaire peuvent développer. Hein. Certains avaient, trois changements de RER à effectuer avec une connaissance du tissu donc de transport public, plus élaboré que pour la plupart d'entre nous. La question de l'orientation scolaire aussi en CM2. Donc, quid de la suite? Comment ça se décide? Comment l'enfant est pris en compte ou pas? Sa famille? Les rencontres entre l'école et la famille? On sait que c'est pas forcément un sujet évident. Et ce à quoi on est arrivé, c'est de se dire, et j'en parlerai en conclusion, ce sont des enfants aussi, quoi, derrière les catégories. Ce sont aussi des enfants, avec des vies d'enfants, même si parfois, ce n'est pas la même vie que celle d'autres enfants sur le territoire français, celle de la population dite majoritaire. Donc des enfants avec aussi leur vécu, leur représentation et leur univers d'enfants. Et c'est vrai qu'il nous a semblé que parfois, derrière ces catégories, et Anna, et Fiv, ou migrants, c'est l'effet des catégories, c'est toujours cet effet des catégories institutionnelles ou administratives qui fait qu'on oublie la singularité aussi, mais aussi l'universalité des personnes, puisqu'elles sont aussi des enfants, il et elle. Donc, on s'est situé entre deux champs de la sociologie des migrations, des relations interethniques, la question de l'altérité, puis la sociologie de l'enfance pour s'appuyer sur les travaux qui avaient déjà réfléchi toute cette question de la place de l'enfant, de sa parole et de ses interactions au quotidien. Donc, recueillir cette parole, ça pose un certain nombre de défis pour les chercheurs, parce que justement, parce qu'on est tous positionnés dans une certaine forme d'asymétrie en tant qu'adultes par rapport aux enfants, en tant que représentants de la société dite majoritaire par rapport à des enfants de migrants qui sont eux-mêmes, comme on dit en sociologie, en situation minoritaire, en situation, vous voyez, de moindre droit, de moindre participation sociale. Et puis, comment entrer directement en relation et en confiance avec des enfants dans des institutions ? Bien sûr, il y a d'autres adultes qui ont en charge l'éducation, la socialisation, la protection de ces enfants et qui, sans, bien sûr, sans le vouloir, sans en prendre conscience, vont peut-être essayer de... vont jouer, en tout cas, de fait, le rôle de filtre entre chercheurs et enfants. Je me rappelle d'une petite qualifiée de Rome qui avait grandi en bidonville et l'enseignante du dispositif UPE2A voulait toujours se mettre à côté d'elle pendant les ateliers artistiques qu'on organisait, alors qu'on a organisé ces ateliers artistiques justement pour créer un espace un petit peu pour rebattre les cartes, si vous voulez, parce que chacun a sa place dans l'école. Hein. Déjà, il y a les enseignants, il y a les autres acteurs adultes, et puis il y a les élèves. Et puis parmi les élèves, il y a les bons élèves, et puis les mauvais élèves, les turbulents et les enfants sages, les élèves sages. Voilà, donc cette petite, elle était plutôt mise du côté de l'enfant turbulente et à canaliser, comme disait l'enseignante. Et en fait, nous, on voulait justement pouvoir entrer dans un nouveau rapport avec elle, sans déterminer les places de chacun. Donc ça aussi, c'est un enjeu pour la recherche. Et puis, je l'ai dit, parce que voilà, ces enfants ont déjà eu plein d'autres relations avant. Ils ont dû se raconter et voilà comment faire pour dans ce cadre-là. Voilà, donc je soulignerai donc quatre points. D'abord que on s'inscrit dans la continuité de travaux dont ceux qui sont menés ici, hein, qui ont commencé donc à recueillir la parole d'enfants, mais une parole historiquement considérée par les institutions, dont les chercheurs, une parole mineure. Hein, et donc, historiquement, en fait, les droits de l'enfant ont émergé, puis le statut de la parole aussi de l'enfant a évolué. Donc, on s'inscrit vraiment dans cette tradition-là de se dire qu'on prend cette... Déjà, on essaye de recueillir la parole, et puis quand on la recueille, on essaye de la prendre réellement au sérieux. Et en même temps... ça pose des questions méthodologiques, ça pose des questions éthiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette parole, en fait, parce qu'après, on pourrait l'inventer, mais aujourd'hui, ce ne sont pas les enfants eux-mêmes qui viennent prendre la parole devant vous, voyez, donc il y a des choses qu'on va restituer. Et il y a beaucoup de questions qui se posent pour restituer, finalement, cette parole, dans la mesure en plus où, je vous dis, ce sont des enfants dont les familles eux-mêmes sont en situation minoritaire. Je reprendrai le concept d'acteur faible du sociologue Jean-Paul Payet. En situation de minorité, parce que moindre accès aux droits, moindre participation, moindre parole, malgré tout, et en même temps acteur. Hein, donc, comment on se situe par rapport à ça. Il s'agit donc aussi à la fois de comprendre et de contribuer au mode de participation sociale des enfants et des jeunes qu'on dit minorisés. On parle de participation sociale parce que pour nous, Ça permet finalement de laisser plus de place à l'hétérogénéité des normes de citoyenneté plutôt que de parler d'intégration au sens injonctif, comme vous en avez parlé. Il y a de multiples façons de prendre place et de participer finalement à la société française et pas forcément les... comment dire, voyez, les grands critères de trouver un travail, de trouver un logement décent. Oui, bien sûr, on souhaite un logement décent à tout le monde, mais ce qu'on a vu en recueillant la parole des enfants, en se promenant aussi dans le quartier avec eux, je prends un exemple, c'est que deux petites filles qui avaient grandi dans l'ancien bidonville qui avait été détruit à côté de l'école, ne m'en parlaient pas comme les baraques ou comme un campement, mais comme leur quartier, comme leurs maisons qui ont été détruites, et comme un espace de vie où elles s'étaient ancrées. Alors, ce n'est pas politiquement correct peut-être de dire ça, mais là, je m'engage parce que j'ai recueilli cette parole et je la restitue. C'est que le vécu ensuite de l'hôtel social, pour le frère de la fille qui racontait donc son expérience d'avoir grandi dans le bidonville d'à côté, l'hôtel social, pour lui, c'est pas un mieux, en fait. Voilà, c'est parce que l'hôtel social, ils sont toute la famille dans une même chambre, qu'ils sont enfermés, qu'ils n'ont pas le droit de jouer dans la cour parce que le gardien est méchant. Je reprends ces termes. Il est tellement méchant selon lui qu'il essaye de faire valoir ses droits en disant mais j'ai le droit d'être un enfant, de jouer, et si vous continuez, je vais appeler le 115, et le gérant qui lui dit mais c'est moi le 115. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est des petites choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais c'est une violence institutionnelle. C'est comme ça qu'on appelle ça en sociologie. Après, voilà, je n'en conclus pas que ce n'est pas bien d'accéder à l'hôtel social, mais c'est juste que le vécu de l'enfant peut différer de celui des acteurs institutionnels ou de la société majoritaire. Et que même si c'est un logement, c'est un lieu de vie indigne, les bidonvilles, on est tous et toutes d'accord, eh bien, c'est quand même là où l'enfant grandit, se fait des camarades, a des souvenirs, joue à tel endroit, sur telle place, et se sent, en tout cas là, dans ses récits, plus attaché et se sentait plus libre à cet endroit-là que dans l'hôtel social, qui d'ailleurs l'a complètement éloigné de l'école et qu'il doit faire une heure le matin, une heure le soir pour aller à l'école. En parlant de participation sociale des enfants, je me réfère aussi à l'ethnologue Elsa Azotian qui parle d'arrière-scène participative. Vous voyez, on essaye en fait, en recueillant cette parole et en observant les enfants entre eux et au quotidien avec les adultes, de voir comment ils prennent place, et c'est une socialisation à la participation sociale. Voilà, donc des enjeux méthodologiques, je l'ai dit. Comment sortir de cette, on a parlé de cette fameuse approche adulto-centrée, et puis comment faire avec les positions de chacun pour aller pour recueillir une parole qui vient finalement nous montrer aussi certains points aveugles, parce que en mettant cette parole avec d'autres observations, on se rend compte par exemple de décalages qui peuvent nous amener à interroger la place de l'école dans la reproduction des inégalités. C'est une vaste question, j'ai pas le temps de rentrer dans la question, mais en tout cas c'est vrai que ce regard focalisé sur les élèves, sur leur précarité, il est évidemment légitime. Ce regard, il est évidemment bienveillant. Hein. Mais après, mis en lien avec d'autres éléments, ça nous a aussi amené à questionner le fait qu'on ne regarde que ces enfants comme à travers la précarité qui expliquerait toutes les inégalités scolaires. Ben, ça permet aussi peut-être, par ailleurs, quand on observe des décisions d'orientation, de ne pas s'interroger sur l'école elle-même, sur la question de l'orientation, ce qui est produit ou pas. Non pas pour être malveillant, hein, c'est pas ça du tout. C'est une analyse institutionnelle. Donc le décalage entre le regard d'enfant et le regard d'adulte, mis en lien avec d'autres éléments d'observation sur le terrain ou avec des éléments d'entretien, nous amène à faire à poser des questionnements. Notamment sur des décisions d'orientation en SECPA qu'on a pu discuter avec des acteurs institutionnels, avec la direction, cet enfant dont je vous parlais tout à l'heure donc, a été directement orienté en SECPA à la fin du CM2, bon, malgré le fait qu'il y ait eu des travaux et des rapports qui pouvaient mettre en question ce type d'orientation. Je cherche juste rapidement un verbatim, donc une citation de la direction d'un établissement qui nous dit donc, les enfants français qu'on envoie en SECPA sont très généralement des enfants déficients, alors que pour les Roms, les conditions sociales dans lesquelles ils ont vécu ne leur permettent pas d'apprendre. Et effectivement, ils n'ont pas le niveau d'aller en sixième normale, donc il ne faut pas craindre de les mettre en SECPA. Il vaut mieux qu'ils soient de bons élèves de SECPA parce que en SECPA, ils vont être des élèves appréciés. Voilà, pour moi, voilà, il faut être pragmatique quand on bosse avec des mômes roms. Et donc ça, c'est des choses qu'on a discutées aussi avec l'équipe, parce que déjà, on relevait aussi, voyez, cette catégorisation en tant qu'enfant rom, alors que en fait, en discutant avec ces enfants, eux-mêmes ne se définissent pas comme ça. Il s'agissait en l'occurrence d'une minorité bulgare, donc de nationalité bulgare turcophone, musulmane. Et la catégorisation comme Rome ne faisait pas forcément sens pour eux. Et puis, on voit aussi qu'il y a une confusion entre Rome et précaire, alors qu'en bidonville, il n'y a pas que des Roms et tous les Roms ne sont pas nécessairement précaires. Donc, on a un glissement ici, un glissement de langage dû à ces catégorisations qui nous traversent tous quand on n'y prend pas garde. Alors, juste quelques éléments pour conclure. Ce qu'on a pu observer aussi, donc dans ces moments partagés avec eux, autour des ateliers, normalement, notamment de dessin, c'est des enfants aussi, derrière les statuts, derrière les catégorisations, et notamment par le fait que leur situation quotidienne est difficile, on a pu observer des choses qui comptent pour l'ensemble des enfants et des élèves, mais d'autant plus dans cette situation-là, c'est ce que j'ai appelé les amitiés structurantes, c'est-à-dire le meilleur copain, la meilleure copine. Où, en fait, je prends toujours, j'ai décliné l'exemple de cet enfant qui a été finalement envoyé en SECPA. Quand j'ai commencé, donc, ils étaient en CM1, puis j'ai continué donc, en CM2. Et en fait, quand on leur a demandé de dessiner un moment qui les avait marqués, qui avait été important pour eux, ils ont tous les deux dessiner le même moment, c'est ses deux meilleurs copains, la visite de Paris avec la tour Eiffel, le drapeau français, donc on voit aussi les symboles qui sont mobilisés, et avec le médiateur scolaire. Le médiateur scolaire dont, par ailleurs, ce jeune garçon m'a dit ensuite en entretien qu'il l'avait aidé à construire sa vie. Donc c'est quand même fort. Et des moments donc, de médiation culturelle, d'animation. Et en fait, les deux garçons ont quasiment dessiné le même dessin. Et quand l'artiste les a mis à côté, ça faisait comme un prolongement. Donc c'était presque une illustration en fait des liens qui les unissaient puisqu'ils ont grandi ensemble. Et puis ce meilleur copain est parti en CM2 parce qu'il a été relogé en hôtel social trop loin pour pouvoir revenir dans cette école. Et cet élève dont je parle, dont tous les adultes, alors qui symbolisait l'élève parfait, l'élève avec lequel c'est agréable de travailler, qui se conforme aux attendus scolaires, qui est sérieux, qui est solidaire, qui est à l'aise, Eh bien, en entretien, en fait, a confié qu'il se sentait complètement perdu depuis que son copain était parti. Et que lui, en fait, voilà, le dispositif, oui, ça avait été bien pour lui, mais oui, l'appui de la professeure et tout, parce que c'est vraiment une école qui fait beaucoup de choses. Mais voilà, à ce moment-là, en tout cas, de l'entretien, parce que c'était encore récent, eh bien, ce qui comptait pour son bien-être scolaire, mais aussi son vécu et sa réussite scolaire, c'était son copain. Et c'était la force de ce lien, parce qu'ils avaient toujours fait leurs devoirs ensemble, parce qu'ils s'entraidaient, parce que c'était un appui. Voilà. Donc, ce vécu qui nous aurait à nous aussi échappé s'il n'y avait pas eu ce passage, en fait, par le biais artistique et par le dessin qui permet, en fait, non pas de faire une belle production artistique, ça, on s'en fichait, mais de s'exprimer, en fait, par un support tiers. Voilà, donc il faut que je termine. Donc la question, c'est voilà, celle de notre place en tant que chercheur par rapport à ces enfants, cette parole finalement mineure qui parfois n'est pas entendue, qu'en faire, donc eh bien la restituer et puis essayer de voir comment elle nous éclaire, non pas directement parce que parce que bien sûr il y a des précautions à prendre par rapport à ce que dit un enfant, c'est pas forcément il dit ça donc ça s'est passé comme ça, c'est juste sa réalité, c'est juste son vécu et ce que ça révèle finalement de sa place et des adultes autour de lui, de ses pairs, de sa place dans l'école, là, mais plus largement. Voilà, je finirai par une citation de Jean-Paul Payet. On a fait il y a un an un colloque conclusif de cette recherche. Et donc, le sociologue Jean-Paul Payet nous a invités à contribuer à une recherche, je le cite, en mesure de s'hybrider à l'expérience des minorités et de leur donner voix plutôt que de parler à leur place. C'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà. Merci.